Bonjour à tous. 24, c'est le nombre de second tours qui seront disputés dimanche en Seine-Maritime dans le cadre des élections municipales. À Rouen, ce sera une quadrangulaire inédite. Quatre listes qui étaient en position de se maintenir et qui ont choisi de le faire. Tendance Ouest vous propose ce midi un nouveau débat entre les quatre têtes de liste. La semaine dernière, avant le premier tour, nous avons parlé logement et tranquillité publique. Les échanges sont à retrouver d'ailleurs sur podcast.tendanceouest.com. Ce midi, nous aborderons jusqu'à 13h les enjeux de mobilité, transport en commun, vélo, voiture, marche, puis les enjeux de sport et de culture dans la ville. Les présentations tout de suite dans l'ordre d'arrivée au premier tour. Nicolas Maillard-Rossignol, bonjour.
Bonjour.
48 ans, ingénieur, maire socialiste sortant et président de la métropole Rouen-Normandie, tête de liste fière de Rouen d'une union de la gauche. Vous avez emporté un peu plus de 45% des voix au premier tour. Marine Caron, bonjour.
Bonjour.
35 ans, entrepreneur, élu Horizon et tête de liste Réussir Rouen d'un rassemblement de la droite et du centre. Vous êtes crédité d'un peu moins de 25% des suffrages dimanche dernier. Maxime Del Silva, bonjour.
Bonjour.
32 ans, responsable RH pour la France Insoumise, tête de liste Faire Mieux pour Rouen, soutenu justement par LFI. Votre score dimanche, un peu plus de 14% des voix. Et j'ajoute que Grégoire Houdan, qui est tête de liste du Rassemblement National, crédité dimanche d'un peu plus de 13% des voix, vient de nous faire part d'une urgence familiale. Il devrait nous rejoindre dans le courant de cette émission avec un peu de retard. On va entrer dans le vif du sujet dans un instant. Peut-être d'abord un tour de table assez rapide, s'il vous plaît, sur les enseignements de dimanche. Nicolas Maillard-Rossignol, vous êtes largement en tête. Comment vous abordez ce second tour ?
C'est comme un match de foot. Il y a la mi-temps, mais ce qui compte, c'est le score final. Alors certes, on est en tête à la mi-temps. Et merci à tous les citoyens de Rouen qui sont venus voter pour nous. Merci plus largement à tous les citoyens qui sont allés voter, parce qu'en réalité, il y a plein de pays dans le monde où des millions de gens se battent pour avoir ce droit de vote. Mais le match, il n'est pas terminé. C'est dimanche prochain que tout se joue. Et moi, j'appelle tous les citoyens à venir voter dimanche prochain parce que c'est un enjeu majeur et nous sommes aujourd'hui la seule liste de gauche humaniste en capacité de gagner, notamment face à l'extrême droite.
Marine Caron, ce score, c'est une déception. 20 points derrière, quelle réserve de voix? Comment vous l'abordez, vous aussi, ce second tour?
Merci d'abord aux Rouennaises et aux Rouennais qui ont fait le choix de notre candidature. Merci de leur confiance. Bien entendu que tout ne s'arrête pas à un premier tour. Il existe l'entre-deux-tours qui est là pour aller convaincre, pour aller présenter à nouveau aux Rouennaises et aux Rouennais qui n'ont pas peut-être entendu le projet qu'on porte, qui est un projet du quotidien, parce qu'il y a 50% d'électeurs qui ne se sont pas déplacés aujourd'hui. Il faut le dire, c'est un Rouennais sur deux. Et donc, il faut aller leur parler à eux, leur dire qu'il existe aujourd'hui une alternance qui ne se construit pas sur la peur, mais sur un projet véritablement pour les habitants. Et ça, c'est le plus important. Donc, avec l'ensemble de mon équipe, nous sommes déterminés, convaincus qu'on peut demain porter l'alternance la plus claire, la plus ferme et la plus forte possible.
Maxime Da Silva, la France Insoumise passe de 3 à 14% par rapport aux dernières élections municipales. Vous aurez vraisemblablement des élus au Conseil. C'est déjà une petite victoire?
Oui, c'est absolument un score historique, surtout dans le contexte dans lequel la France Insoumise a autant été prise par cible. Donc, je vais à mon tour remercier les plus de 4300 électeurs qui nous ont apporté leur suffrage au premier tour et dire aux Rouennais et aux Rouennaises que s'ils ont voté la France Insoumise dimanche, eh bien qu'ils recommencent. S'ils n'ont pas voté dimanche, eh bien qu'ils se mobilisent. Si leur liste au premier tour a été disqualifiée, eh bien qu'ils votent pour le seul bulletin sans compromis, ni avec Macron, ni avec l'extrême droite. Et que si jamais certains ont voté utile par raison au premier tour, ils ont l'occasion de voter LFI par conviction au deuxième tour. On compte sur eux.
Midi 8 sur Tendance Ouest. On aborde tout de suite la première thématique de ce débat. Les mobilités, transports en commun, vélo, voiture, espace piéton. Beaucoup de changements dans la ville depuis 6 ans. Et évidemment, de la complexité pour faire cohabiter tous les usages dans la ville. Écoutez ce qu'en pensent ces Rouennais rencontrés cette semaine.
Pour arriver jusque Rouen, ça va. Dans Rouen, c'est casse-pied. Il y a plein de voies avec le tram, les bus. C'est pas toujours très bien indiqué.
Il y a beaucoup d'embouteillages sur Rouen. C'est mieux de venir en transport. C'est beaucoup plus pratique. Puis en plus, il n'y a pas de parking à payer qui sont excessivement chers.
Ah, garer, c'est une catastrophe.
Moi, je prends le Filor jusqu'à Franqueville et après, je prends le bus jusqu'ici. Ça serait mieux si c'était plus desservi parce que le Filor, faut le commander et tout. Donc, c'est un peu pénible, mais sinon, ça va en vrai.
Les étudiants, on est assez dépendants de ces théors. Par exemple, moi, je prends un abonnement à l'année qui revient à assez cher. Ça aiderait beaucoup d'étudiants de pouvoir avoir un transport gratuit.
Nicolas Maillard-Rossignol, je commence par vous, maire socialiste sortant, avec cette mesure signature de votre mandat, la gratuité des transports en commun le samedi, puis pour les moins de 18 ans, vous souhaitez désormais l'étendre. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et surtout, est-ce qu'on peut bien se le permettre?
D'abord, il faut dire que ça marche. C'était un pari. Ça a été fait ailleurs, hein. On n'est pas les premiers, mais quand même, on était assez innovants. Ça marche sur le plan climatique, environnemental, qualité de l'air, qui a beaucoup, beaucoup progressé. Et ça, c'est une grande fierté parce qu'il y a des conséquences de santé publique. Ça marche sur le plan social. Ça vient d'être dit par un des auditeurs interviewés, notamment pour les jeunes. Je pense aussi aux mamans solo, aux parents solo, parce que ça coûte. Et quand c'est gratuit, bien évidemment, c'est beaucoup moins cher et c'est un gain de pouvoir d'achat très important. Et puis, ça marche aussi pour le commerce, notamment le samedi. Pas tous les commerces, mais beaucoup de commerces. Donc, effectivement, on veut aller plus loin. Je sais qu'il y a un débat là-dessus et je pense que c'est une mesure qui est majeure et qui est encore plus importante aujourd'hui, vu l'actualité. Vous avez vu le prix de l'essence ? Vous avez vu le prix des carburants ? Alors évidemment, ça ne convient pas à tout le monde, ça c'est vrai, parce que tout le monde ne peut pas prendre les transports en commun, et donc il faut une offre complète. Il faut aussi le train. Le train, ça ne dépend pas que de nous, mais on peut aider. Il faut le vélo, la marche, le covoiturage. Mais franchement, les transports en commun, on partait de très loin. Vous l'avez dit, on a beaucoup progressé, avec des conséquences qu'il faut gérer aujourd'hui. C'est vrai, dans l'espace public, il faut qu'on puisse encore avancer. Je crois que c'est le sens de l'histoire. Et moi, je suis fier d'aller dans ce sens-là.
Donc, on le fait pour les moins de 26 ans et les plus de 65 ans.
C'est ça, 25-65. Et je pense que c'est un premier pas. Vous avez demandé si on peut se le permettre. J'ai déjà répondu à cette question. Oui, on peut se le permettre. Bien sûr, quand on dit gratuité, c'est comme quand on dit l'école publique est gratuite. Ça a évidemment un coût. Pour les transports, il faut payer les bus, les chauffeurs, l'essence, etc. Mais à vrai dire, prendre sa voiture aussi, ça a un coût, hein. Et tous les systèmes ont un coût. Je rappelle quand même que même le ticket normal, à 1,80€ au maximum, il est déjà subventionné, entre guillemets, aux trois quarts. On ne payait qu'un quart du coût réel. Donc, ce n'est pas un débat entre tout gratuit ou zéro gratuit. C'est un débat sur le dernier quart.
La hauteur de la subvention.
Voilà, exactement. Donc, c'est un vrai débat. Mais aujourd'hui, on a une épargne de la métropole qui permet de le faire parce qu'on a démontré dans ce mandat qu'on savait à la fois gérer les finances publiques métropolitaines et développer la gratuité des transports.
Marine Caron, sur les transports en commun, sur la gratuité, quelle est votre position pour le samedi, les moins de 18 ans? On revient en arrière si vous devenez maire?
Alors, je l'ai déjà dit et je vais le redire de manière très claire, je ne reviens pas en arrière, puisque c'est un peu la fausse information qui circule. J'avais moi-même en 2020 porté un projet qui était la gratuité du week-end, donc bien entendu que je l'ai voté quand ça a été mis en place. Moi, je dis juste attention, parce que c'est beau de dire au micro qu'on peut le faire et que tout va bien fonctionner. La réalité aujourd'hui dans la promesse qui est faite par Nicolas Maillot-Rossignol, c'est que l'extension de la gratuité, c'est 10 millions d'euros supplémentaires par an, mais qu'il n'y a pas que cette promesse-là qui est faite, c'est des dizaines de projets qui sont annoncés. On peut rajouter le Palais des Congrès, le Centre de Culture Urbaine, le Tiers-Lieu Culturel, le Chez Avin, la Patinoire, le Stade de Foot, on en parlera tout à l'heure. Mis bout à bout, c'est plusieurs milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur notre territoire. On ne pourra pas tout faire et il faut le dire aussi très clairement aux auditeurs qui nous écoutent, comment est-ce qu'on va financer tout ça? Monsieur Maillot-Rossignol n'a jamais répondu à cette question. Pourtant, il le sait très bien, puisqu'il a parmi lui des alliés qui prônent deux choses. Un, le déplafonnement du versement mobilité, donc faire payer les entreprises. Et deux, la création de la taxe foncière métropolitaine. Ça a été évoqué en conseil métropolitain. Et j'étends juste, parce qu'on vient d'entendre un exemple de dire le parent solo qui ne paye pas demain la carte de transport de ses enfants, ça va le soulager. Oui, mais si demain, lui, il est propriétaire d'un bien, parce qu'il a fait le choix de mettre ses économies pour rembourser un emprunt tous les mois et avoir à la fin un toit qui lui appartient, et ben il paiera une taxe supplémentaire et ça lui coûtera plus d'argent.
Ce que vous proposez, vous, c'est une tarification solidaire,
bien entendu. Je vais prendre un exemple très concret. Pour nos seniors, il y a une tarification solidaire qui existe déjà, sauf que le matin et le soir, en période de pointe, ils payent deux tickets pour un seul trajet. Et ben ça, on arrête. Comme ça, on est vraiment solidaire pour les seniors, par exemple.
Maxime Da Silva, la gratuité des transports en commun, vous la saluez, vous souhaitez même l'étendre.
Oui, absolument. Donc l'étendre en commençant par les moins de 26 ans, les plus de 65 ans. Mais du coup, j'ai une question au candidat maire Nicolas Maillot-Rossignol. Lorsqu'il a lancé sa campagne, il avait annoncé une gratuité pour les moins de 25 ans. Nous, on avait annoncé moins de 26 ans par une question de cohérence vis-à-vis de ce qui est pratiqué aujourd'hui par les services de la SNCF notamment. Et donc, je l'ai entendu ensuite dans des débats parler du seuil de 26 ans. Donc, ce matin au micro, il dit de nouveau 25 ans. Je voudrais savoir quelle est la mesure exacte du programme. Je pense que ça intéresse pas mal de Rouennais.
Alors, 25 ans, 26 ans, Nicolas Maillot-Rossignol, vous
répondez. Oui, c'est la différence entre inférieur ou inférieur ou égal. Le terme en général qui est utilisé, effectivement, c'est les moins de 26 ans.
Ah, tant mieux qu'on soit d'accord.
Mais franchement, si c'est le seul point de différence, je pense qu'on devrait arriver à trouver des compromis.
Oui, non, mais sur la gratuité, tout le monde a compris.
L'objectif d'arriver à la gratuité
totale. L'objectif, c'est la gratuité totale, évidemment. On prenait l'exemple tout à l'heure de Montpellier, sur lequel il y a des exemples, Montpellier, Dunkerque, sur lequel on était sur une gratuité totale. Mais l'impératif principal du fait de développer les transports en commun et de les rendre gratuits, c'est un impératif de transition écologique. On a besoin, évidemment, de réduire la pollution au carbone, et donc on a besoin de transports en commun qui sont performants, qui sont gratuits, qui sont largement utilisés. Et on le voit, partout où la gratuité est mise en place, le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices des transports en commun augmente largement. Donc il va falloir qu'on aille vite sur la gratuité.
Juste très rapidement, parce qu'il faut quand même prendre le rapport de la Cour des comptes, hein, qui montre bien que le report modal de la voiture vers le transport en commun existe, mais il est minoritaire et que c'est principalement des personnes qui sont déjà sur des mobilités douces, le vélo ou les piétons, qui l'utilisent majoritairement. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique des mobilités qu'on doit avoir sur notre territoire.
Et justement, on parlera dans quelques instants de la place de la voiture aussi en ville, de la place du vélo, de la place des piétons. On va faire une courte pause et puis on rediscute de tous ces enjeux dans un instant. A tout de suite. Midi et 22 minutes de retour sur Tendance Ouest pour le grand débat des municipales. Nous étions en train de parler mobilité sur notre plateau. Maxime Da Silva, je reviens vers vous. C'est vous qui êtes légèrement en retard sur le temps de parole. On a dit gratuité des transports en commun. Il y a d'autres ajustements à faire sur ces transports. Vous parlez dans votre programme d'ajuster aussi les fréquences, les horaires sur certaines lignes, par exemple.
C'est ça. Il y a à la fois les cadences, parce qu'il y a des endroits dans lesquels les bus ne passent pas suffisamment. Il y a à la fois les horaires qu'il faut élargir, notamment le week-end, la nuit, les soirs, avec en fait une égalité territoriale à faire déjà sur le territoire de Rouen, pour ne se concentrer que sur celui-là, où on a aujourd'hui une jeunesse, par exemple, sur les Hauts-de-Rouen, pour qui il est très difficile de pouvoir venir profiter d'un spectacle, d'un verre entre amis, d'une soirée de sociabilité dans le centre-ville, de pouvoir rentrer en soirée sur les Hauts-de-Rouen. Donc on a rencontré beaucoup de jeunes dans le cadre de cette campagne qui nous disent qu'ils se sentent un peu obligés de rester à domicile, ce qui est vraiment une rupture d'égalité entre les jeunes des Hauts-de-Rouen et les jeunes qui seraient en centre-ville ou sur la rive gauche, où Rouen, en dehors des Hauts-de-Rouen, est quand même très accessible à pied du bout de la rive droite jusqu'au bout de la rive gauche, en dehors des Hauts-de-Rouen, pour lequel c'est quand même parfois compliqué selon les quartiers de remonter tout là-haut sur la colline. Donc il faut absolument étendre cela, donc plus de bus et avec des horaires élargis. Et pour ça, je veux le dire, on aura besoin notamment du déplafonnement du forfait mobilité, du versement mobilité, pardon. C'est une bataille que mène la France Insoumise depuis longtemps. Il s'agit en fait d'un déplafonnement qui ne va pas faire que les entreprises seront perdantes, parce que les entreprises aujourd'hui, elles payent 50% des abonnements de transport, et donc il y aura une partie qui sera récupérée dans la mesure où, avec la gratuité des transports, elles auront moins à rembourser à leurs salariés. Donc il faut surtout ne pas faire peur avec le déplafonnement. On a besoin du déplafonnement pour avoir besoin de transport, on a besoin de transport pour faire de l'écologie populaire. Donc c'est ce que nous soutenons avec la liste Faire mieux pour moi.
Marine Caron, vous partagez ce constat sur l'élargissement des horaires pour les petites lignes, sur des fréquences à ajuster.
On a besoin d'avoir une augmentation de la fréquence, on a besoin d'avoir une augmentation de la desserte. C'est un impératif pour mailler le territoire. Pour ça, il faut de l'investissement, hein. Et pour ça, il faut des financements. Et donc, je reviens sur le sujet tout à l'heure de comment est-ce qu'on finance cette gratuité. C'est quand même un point important sur lequel on n'a toujours pas de réponse de Monsieur Maillet-Rossignol. Mais moi, je veux quand même dire une chose, parce que c'est important. Hier, il y a 52 bus qui ne sont pas sortis. 52 bus, c'est 25% de sorties qui n'ont pas été réalisées. 25% de sorties qui ne sont pas réalisées, c'est une dégradation du service de manière générale. Parce qu'on a des bus qui sont vétustes, on a des bus qui sont dangereux. Et ça, les conducteurs, ils nous en parlent. On peut le constater au quotidien. Et moi, j'utilise des transports en commun au quotidien. C'est un vrai point majeur sur lequel il faut ne pas oublier que c'est la responsabilité de la métropole de mettre à disposition des bus et ensuite aux délégataires de les entretenir. Et là, il y a une vraie défaillance collective à la fois de la métropole et à la fois du délégataire. Et ça, c'est pas possible. On peut parler de la fréquence, on peut parler de la gratuité, on peut parler de la desserte, mais il faut parler de l'état de nos bus aujourd'hui, c'est une priorité.
Nicolas Maillet-Rossignol, vous êtes interpellé. Bon, il y a un sujet, c'est vrai, sur l'état des bus. Il y a eu des retards dans les commandes de bus électriques qui sont un peu plus longs que prévu à arriver. J'imagine que c'est peut-être une partie de votre réponse. Et puis sur le financement, ça fait deux fois que Marine Caron vous interpelle sur cette gratuité qui coûte 10 millions. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et comment on la finance?
Oui, pour vous répondre sur les deux sujets. D'abord sur le financement, je l'ai déjà dit. À chaque fois que je parle de gratuité, bien sûr, c'est un raccourci de langage, ça coûte, et on l'a prouvé sur ce mandat, on sait le faire et on sait le gérer. Effectivement, l'ordre de grandeur, c'est 10 millions d'euros. Je rappelle quand même que c'est fait, ça a été dit d'ailleurs à Dunkerque, à Montpellier. Nous avons des finances qui nous permettent de le faire. Ce qui n'a pas été dit, c'est que ces 10 millions sont comparés à quoi? À l'épargne de la métropole. Le budget de la métropole, c'est à peu près 1 milliard d'euros, et l'épargne, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, est de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc ça correspond à 10% de notre épargne. Donc c'est pas zéro, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est soutenable dans notre budget. Premier point.
Je vous invite juste, M. Maillard-Rosnal, à répondre à une question qui est très claire. Si je peux me permettre de reposer la question, est-ce qu'il y aura la création d'une taxe foncière métropolitaine demain pour financer ?
Je vous ai déjà répondu.
Vous n'avez pas répondu.
À plusieurs reprises, et je rappelle, et c'est facilement vérifiable, on a mis tous les chiffres en ligne, tout cela est public. Nous sommes, je crois, avec Bordeaux et Lille, c'est à vérifier, l'une des dernières métropoles de France à ne pas avoir de taxe foncière métropolitaine. Et enfin, je rappelle que Mme Caron, vous parlez de coûts, mais vous dites que vous voulez faire la tarification solidaire. Mais ça coûte combien la tarification solidaire ? Parce que de deux choses l'une, soit vous modulez les tarifs des uns et des autres, et à ce moment-là, ça veut dire que vous allez faire payer plus cher certaines personnes, mais à ce moment-là, dites qui ?
Non,
soit vous ne voulez pas faire payer plus cher, et à ce moment-là, il y a un coût. Et donc, vous allez le prendre comment, votre coût ? Parce que ça aussi, ça coûte de l'argent. Et je signale aussi que quand on prend sa voiture, ça coûte de l'argent. Oui, sauf que vous n'avez jamais dit combien
ça coûte. Et vous ne répondez pas à la question non plus.
Donc, je vous réponds très clairement. Nous avons une épargne qui nous permet d'absorber cela. Maintenant, j'aimerais quand même...
Ce n'est pas la réponse à la question.
Excusez-moi, mais on peut tout le temps s'interrompre. Mais si on peut avoir un débat un tout petit peu
nuancé et posé... Mais ne dites pas simplement que c'est la réponse à la question, alors que ce n'est pas la réponse à la question.
Très clairement, nous avons la métropole parmi les moins endettées de France, contrairement à vos amis. Nous avons, nous, suggéré l'argent contrairement à vos amis. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous permet d'avancer sur ce sujet. Sur le parc
et
de
sur
bus,
l'état des bus,
là aussi, je trouve que c'est un petit peu gonflé. Je trouve que c'est tout de même un tout petit peu gonflé. Vous savez combien il y avait de bus électriques quand nous avons gagné les élections en 2020 ?
Il n'y en avait aucun, je pense.
Il y en avait deux sur 450. Vous voyez, je suis précis. Donc, nos prédécesseurs, et je vous invite à voir sur quelle liste ils sont aujourd'hui, avaient investi combien sur les bus ? Deux bus électriques. Aujourd'hui, il y en a plus de 130.
On était quand même, il faut le rappeler, à l'expérimentation des bus électriques dans toutes les métropoles.
Oui, comme par hasard, dans d'autres agglomérations, il y avait déjà beaucoup de bus électriques.
Donc, un petit retard sur la livraison.
Je dis simplement, non, nous sommes à plus de 130 aujourd'hui.
Une défaillance sur la livraison.
Il y a une difficulté sur un fournisseur, ça c'est vrai, qui s'appelle Ibusco. Mais ce n'est pas du tout la majorité des bus. Vous le voyez sur le F7, sur le F9, vous voyez aussi des Ibusco qui arrivent aujourd'hui. Et moi, je le dis très clairement, nous avons dû combler un retard, et aujourd'hui nous avons investi 2,5 fois plus pour renouveler le parc que ce qui avait été fait dans les mandatures précédentes. J'en suis fier. Et je suis d'accord avec ce qui avait été dit tout à l'heure par le candidat de LFI. Effectivement, il faut aussi renforcer l'offre, mais bien sûr, là aussi, il faut le financer.
Maxime Da Silva, vous souhaitez
Nous assistons à un débat sur les finances et le budget de Mme Caron et M. Nicolas Meyer-Rossignol. Je veux quand même rappeler qu'aujourd'hui, nous avons des collectivités territoriales qui sont menacées parce que le budget de l'année 2025 a confisqué 10,2 milliards d'euros aux collectivités. Le budget 2026 a confisqué 5 à 6 milliards d'euros aux collectivités et que ce budget est un budget qui est aujourd'hui soutenu officiellement et par Mme Caron et par Nicolas Meyer-Rossignol par leur positionnement politique nationaux. Donc je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent, eh bien si vous voulez que la vie change, eh bien il faut soutenir les bulletins de vote France Insoumise dimanche. Parce qu'il faut des personnes qui sont résolument opposées au macronisme, chose que, évidemment, Marine Caron n'est pas, puisque c'est la candidate de Macron, et que M. Nicolas Meyer-Rossignol n'est pas, puisqu'il a, en tant que député suppléant, soutenu le budget de la Nation l'année dernière, et qu'il est en compromis avec la Macronie.
Nicolas Meyer-Rossignol et Marine Caron,
c'est là. Non, je veux juste rappeler quand même que ce dont on parle là, c'est la métropole. Et des trois candidats qui s'expriment là, je suis le seul à être clair sur qui va gouverner la métropole.
Bah, vous n'êtes pas
et
sûr.
Non seulement, franchement, Monsieur Da Silva, vous le savez bien, vous n'aurez pas assez d'élus pour avoir la majorité à la métropole. Je suis le seul ici qui puisse l'avoir. Maintenant, il y a des résultats du premier tour. Vous avez vu Grand-Quevilly, vous avez vu Saint-Étienne-du-Rouvray, vous avez vu Oissel, vous avez vu Petit-Quevilly, vous avez vu Sotteville. Bon, voilà. Donc, nous avons un collectif métropolitain qui nous permet d'avoir la majorité au Conseil pour voter tout cela. Parce que c'est bien beau de faire des promesses en campagne, mais à la fin, il faut des votes à la métropole. Et ici, c'est juste la réalité issue de ce premier tour. Je suis le seul candidat à être clair sur ce sujet et à avoir cette majorité.
Honnêtement, je veux dire à ceux qui nous écoutent rapidement que ça, c'est pas possible démocratiquement. On a aujourd'hui une élection municipale et métropolitaine. Demain, eh bien, il y aura à l'échelle métropolitaine des votes selon les gens qui seront envoyés à la métropole et donc des décisions seront prises.
Et on a entendu que vous étiez potentiellement en position de vous retrouver sur certains votes justement sur les
propositions. La France Insoumise vote toujours les propositions qui vont améliorer la vie des gens.
Je serais d'accord, une fois n'est pas coutume, avec Maxime Da Silva sur l'importance de l'échelle démocratique et du vote. On vote pour élire un maire demain. Je suis pas d'accord par contre sur le fait de confisquer en permanence le débat des élections municipales sur l'autel de la politique nationale. Moi je suis très claire sur une chose, le sujet aujourd'hui c'est les Rouennaises et les Rouennais. Je suis candidate pour être maire de Rouen, et maire de Rouen, si les Rouennaises Rouennaises et les Rouennais me font confiance, je le serai pendant 6 ans. Pas en utilisant la ville comme un tremplin pour une carrière nationale ou des ambitions ailleurs. Je défendrai Rouen tous les jours et même au cœur de la métropole dans une gouvernance qui sera apaisée, collective et transpartisane, parce que c'est aussi ça le sens de l'intérêt général, monsieur Maillet-Rossignol.
On le disait, la mobilité, c'est aussi une histoire d'équipe dans les usages. Se pose la question de la place de la voiture, qui est considérablement réduite. Je rappelle aussi que le candidat du Rassemblement National, Grégoire Audon, qui avait annoncé sa présence à un impératif familial, on attendait peut-être qu'il puisse nous rejoindre. Il semblerait, en tout cas à cette heure, que ce ne soit pas le cas. On va pas avoir le temps d'évoquer tous ces enjeux de mobilité. On va se retrouver dans un petit instant et on parlera, parce que ça n'a pas été beaucoup évoqué encore, ces thématiques dans le débat. On parlera de sport, on parlera de patinoire, on parlera du stade Diochon et on parlera également tous ensemble de politique culturelle. Voilà, c'est dans un petit instant, à tout de suite. Midi et 39 minutes sur le plateau de Tendance Ouest, de retour pour ce grand débat du second tour des municipales à Rouen avec une quadrangulaire inédite. 3 des 4 candidats sont avec nous sur le plateau. Grégoire Audon pour le Rassemblement National a eu un empêchement de dernière minute. On va parler sport, on va parler culture. Ce sont deux thématiques qui sont souvent, c'est vrai, reléguées aussi dans les dernières pages des programmes municipaux. D'aucuns diraient qu'ils constituent pourtant des enjeux essentiels d'attractivité, de qualité de vie. Il y a un sujet sur lequel je crois vous vous retrouvez tous, ce sont les infrastructures pour les clubs et notamment le sujet de la nouvelle patinoire pour les Dragons de Rouen, équipe de hockey 18 fois champion de France. Maxime Da Silva, il leur faut un nouvel équipement ?
Oui, absolument. Bien, vis-à-vis des performances du club, l'ensemble des clubs de supporters nous ont fait remonter qu'il y avait besoin de nouvelles infrastructures. Donc on soutient un projet de nouvelle patinoire. Pour ce qui est du stade Diochon, nous sommes pour qu'il soit rénové et non pas pour qu'il y ait un nouveau stade comme ça a été le projet à un moment. Voilà pour nos positions sur les deux grandes infrastructures, sport et patinoire, sur la métropole.
Quel dimensionnement, à quel endroit la patinoire, si on peut être un peu plus précis ?
Ouais, et bien là-dessus, il y a plusieurs options. Il y a des options qui sont en dehors de Rouen, dans Rouen. Donc je sais qu'il y a des crispations, des demandes. Donc nous, ce que nous avons dit dans le programme, c'est que vu que le projet n'est pas lancé, que nous consulterons largement l'ensemble des parties prenantes autour de la patinoire, parce qu'il y a évidemment le club des Dragons, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont parties prenantes autour de la glisse à Rouen. Donc du coup, nous ferons un processus démocratique pour définir le projet avec les premiers concernés.
C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est, on pourrait presque dire en centre-ville, en tout cas, elle est sur l'île Lacroix, au cœur de Rouen, en périphérie, toujours en ville, c'est difficile à dire aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous le remarquez, il n'y a pas d'élu France Insoumise pour l'instant sortant, donc en termes de connaissances, y compris peut-être d'études d'impact qui ont été faites, nous n'avons pas accès aux informations parce qu'elles sont relativement opaques.
Vous êtes dur avec Alexis Vernier, là.
Donc justement, nous allons travailler à ces différents projets qu'il pourrait y avoir, mais en tous les cas, une nouvelle patinoire avec nous, c'est oui, et puis avec l'avis des supporters, des clubs et des parties prenantes, et ben c'est oui absolument, puisque nous prévoyons de les consulter avant d'agir.
Vous parliez d'Alexis Vernier qui est élu pour la France Insoumise, élu à Sotteville-lès-Rouen et donc élu à la métropole. Marine Caron, sur la patinoire, votre position, il faut aussi un nouvel équipement. Vous savez déjà où ? Vous avez déjà présenté l'endroit ?
Moi, j'ai fait une proposition, en effet. On a un club aujourd'hui qui est un club d'envergure sur les territoires avec une vraie ferveur populaire et des supporters qui sont très nombreux. Je suis contente d'en compter aussi dans mon équipe, hein, les supporters de toujours du RHE, mais d'autres clubs également. Il y a besoin d'une nouvelle patinoire parce que il y a une vétusté qui est quand même avancée sur la question de la glace, en tout cas, qui pose des problèmes régulièrement, qui ternissent l'image de Rouen dès que les matchs sont retranscrits dans le cadre de la compétition nationale, et ça, c'est pas possible de continuer. Moi, je regrette qu'on ait mis 10 millions d'euros d'investissement par le passé. On en avait besoin, je suis d'accord, mais qu'on n'ait pas anticipé avant l'évolution de la patinoire et le besoin. Moi, je pense qu'on a besoin donc aujourd'hui d'une nouvelle patinoire. On s'en rend compte. Le quartier Flaubert, moi, me semble être un endroit qui est pertinent, qui fait sens, où il va falloir créer une vie de quartier, une vie populaire, une vie autour de clubs aussi et du sport. C'est un élément vecteur de la ville. Donc, c'est la proposition que j'ai portée aujourd'hui. Maintenant,
Il la faut plus grande que
oui,
l'actuelle.
Oui, plus grande qu'aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que le club limite le nombre d'abonnés parce qu'ils pourraient en avoir plus, mais ils veulent garder des places ouvertes qui sont quasiment systématiquement à guichet fermé en quelques heures. Donc, il y a vraiment un un enjeu autour de ça. Mais il ne faut pas oublier les autres sports. Et en effet, Maxime Da Silva a évoqué le foot, notamment le FCR, la manière de faire évoluer au stade Robert Diochon dans des infrastructures qui doivent être rénovées. Mais on en parlera certainement après. Je pense qu'il y a le sport du quotidien qui est un sujet important quand même aussi et un aimant vecteur de vivre ensemble.
On laisse peut-être le maire répondre aussi sur la patinoire. Nouvelle patinoire, vous êtes d'accord, Nicolas Maillard-Rossignol, on l'a fait où ? Pour l'instant, on est au stade des études. Il y a une délibération qui a été votée au Conseil métropolitain pour étudier l'emplacement éventuel de cette future patinoire.
Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marine Caron. Effectivement, hein, par le passé, la métropole aurait dû anticiper. Vous pouvez le dire à M. Sanchez, en l'occurrence. Mais bon.
On rappelle M. Sanchez qui était président de la métropole socialiste, qui figure aujourd'hui sur la liste de Marine Caron.
Parce que là encore, on est sur un sujet métropolitain, tout le monde le comprend bien. Sur la patinoire, donc, il faut être précis. Aujourd'hui, la patinoire, c'est 3300 places environ. Ce n'est pas seulement la patinoire qui est limitante, c'est aussi l'île Lacroix. On le voit bien, puisqu'il y a essentiellement une route pour y accéder. Donc c'est évidemment très difficile. On ne peut pas avoir une nouvelle patinoire sur l'île Lacroix. Il y a aussi des enjeux par rapport au fleuve, évidemment. Donc effectivement, je me suis engagé, je l'ai annoncé publiquement il y a longtemps, et les études sont déjà en cours. Il y a plusieurs sites qui sont déjà en études. Il faut être très précis et précautionneux sur ces sujets. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question de la jauge. Pour vous dire, sur l'étude, c'est entre 8 et 10 000 places. Donc c'est plus du double d'aujourd'hui. Donc il faut imaginer 8 à 10 000 personnes qui sortent dans quelques minutes ou quelques dizaines de minutes à la fin d'un match en même temps. Donc il y a des enjeux de mobilité. Il y a aussi des enjeux de sécurité. Si vous avez un incendie, si vous avez un accident industriel, si vous avez, vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, le risque inondation. Donc on a plusieurs sites qui sont à l'étude. Évidemment, il faut consulter toutes les parties prenantes et les maires, parce que ça a aussi des conséquences sur les riverains éventuellement, en termes de stationnement par exemple, ou de nuisance. Donc c'est vraiment un sujet large.
Il y a un site qui a votre préférence ?
Pardon ?
Il y a un site qui a votre préférence ?
Non, pas à ce stade, il y en a plusieurs. Je l'ai déjà dit publiquement, il y a le site Rive Gauche dans le quartier Flaubert, il y a autour de la plaine de la Ronce au nord et au sud du côté du Madrier. Et dedans, il y a plusieurs sous-sites, si vous voulez, qu'on étudie. Mais je dis juste que c'est un sujet très sérieux, important, et effectivement on en a besoin, mais pas seulement pour les Dragons, parce qu'on dit toujours, et moi aussi je suis d'accord, bien sûr, on a un club masculin, d'élite, très fort. Mais et le hockey féminin ? Et les autres clubs de glace, et les autres sports de glisse. On a aussi besoin de dégager des créneaux pour les autres clubs. Puis bien sûr, après, il faut parler des équipements du quotidien et du Stade Diochon, mais j'imagine qu'on va y revenir.
Alors, on va aller assez vite sur Diochon, parce que là aussi, je crois que vous partagez le constat les uns les autres. Vous en avez déjà parlé un peu, oui. Maxime Da Silva. On a grandi, Diochon, pas de nouveau stade à ce stade.
C'est ça, agrandissement de Diochon, pas de nouveau stade. Je veux dire que tout ce qu'on est en train de dire sur les infrastructures, ça doit forcément être accompagné de politiques en direction du sport populaire. Donc nous, là-dessus, il y a à la fois le fait d'aller soutenir le développement du sport féminin, en ayant une offre de sport féminin plus importante dans les clubs rouennais. Il y a aussi des choses à faire en direction du handisport, avec notamment des sensibilisations autour du handisport. Et enfin, il y a aussi des choses à faire sur le prix, raison pour laquelle je propose une carte famille monoparentale qui ouvrira plusieurs droits, dont un droit à des tarifs préférentiels pour l'accès aux activités sportives et culturelles. Trop de mamans solo, aujourd'hui à Rouen, doivent renoncer à ce que leurs enfants aient des pratiques culturelles et sportives en raison des coûts.
Marine Caron, sur Diochon, on a grandi.
Très rapidement sur Diochon, en effet, moi j'étais claire, on a grandi, c'est-à-dire on crée les virages qui réunissent hors la ville et le Noble. On couvre la tribune Zénith en laissant un espace supporter debout. On couvre la tribune visiteur, bien entendu. Ces tribunes qui étaient censées être temporaires, elles ont maintenant plus d'une vingtaine d'années, donc elles sont dans un état qui n'est pas acceptable en termes de confort et en termes de sécurité non plus. Donc ça, c'est des urgences. Mais en effet, le sport, c'est pas uniquement les clubs pro. Au contraire, il y a aussi une association qui vit derrière le SCR, il y a des associations dans tous les quartiers. Le vrai sujet, c'est les équipements sportifs de quotidien et de proximité. On en a 28 en moyenne à Rouen, quand c'est 46 dans une ville de 100 000 habitants. C'est les chiffres du rapport de la ville de Rouen. Donc on est en manque. Il faut des équipements du sport du quotidien, parce que du coup, on manque de créneaux, on manque de capacités pour accueillir les jeunes, les licenciés, les clubs. Il y a des clubs qu'on finit par mettre à la porte, hein, comme ça a été le cas pour la section foot de la SPTT pas plus tard que l'année dernière. C'est pas possible, parce que la ville, elle a ce devoir d'accompagner l'ensemble des clubs pour le sport santé, pour le sport senior, pour le bien vieillir, mais aussi pour les plus jeunes, parce que c'est un élément d'éducation, c'est un élément de citoyenneté aussi, le sport. Il y a des valeurs qui sont extrêmement importantes.
On va essayer de parler culture, Nicolas Maillard-Rossignol, sur Diochon. De toute façon, je crois que vous rejoignez ça. On peut rappeler qu'il y a aussi des études qui ont été lancées pour un nouveau stade, mais que ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle. Vous vous êtes déjà exprimé aussi, je crois, à plusieurs reprises.
La priorité, elle là-dessus s'impose mécaniquement. Évidemment, ça va plus vite d'étendre Diochon que de créer un nouveau stade. Ensuite, il faut quand même avoir une vision de long terme sur le sport de haut niveau. et sur les dizaines d'années qui viennent, parce qu'un nouvel équipement, c'est ça aussi, hein, c'est pas juste sur une saison. Je veux quand même rappeler, parce que je trouve que c'est un petit peu gonflé, que le FCR, la subvention de la métropole en 2018-2019, souvenez-vous qui était président à l'époque, c'était combien ? 6 000 euros. 6 000 euros. Donc, c'est comme l'amour, hein. Il n'y a que des preuves d'amour.
La culture. Rouen a apporté, c'est vrai, l'ambition d'être capitale européenne de la culture en 2028. Ça n'a pas pu se faire, mais des crédits ont été alloués au niveau de la ville, au niveau de la métropole aussi. Qu'est-ce qui reste de cette campagne, Nicolas Meyer-Rossignol, pour Rouen, capitale européenne de la culture 2028 ?
Plein de choses. D'abord, une coopération, une fédération à l'échelle de la Vallée de Seine. Et j'en suis très fier parce qu'on travaille avec Vernon, avec Le Havre, dans un esprit, et toutes les intercommunalités, dans un et Paris, bien sûr, dans un esprit d'intérêt général pour développer la culture. C'est à chaque fois que la culture se développe, progresse, c'est l'ignorance et le repli sur soi et finalement l'intolérance qui recule. Donc, je sais bien qu'il y a d'autres décisions et d'autres choix qui sont faits dans d'autres territoires. Et moi, je le dis clairement, il faut sanctuariser le budget de la culture, sanctuariser l'indépendance des artistes et défendre les droits culturels, c'est-à-dire un accès. Ensuite, concrètement, je vais vous donner des exemples. Le projet Beauvoisine, qui est un très beau projet muséal. Mmh. Évidemment, la gratuité sur les bibliothèques et leur ouverture le dimanche. Et on peut aller encore beaucoup plus loin.
Maxime Da Silva, sur la culture, vous insistez aussi sur le soutien à la culture rouennaise et aux artistes rouennais dans votre programme.
Et il faut faire des choses. Et là, j'entends le maire qui nous dit qu'il voudrait sanctuariser. Juste, c'est un beau mot, hein, sanctuariser. Mais sanctuariser, ça veut juste dire faire exactement la même chose. Or, on a besoin de faire d'autres choses
pendant le mandat.
On a besoin de faire
absolument autre chose. Et donc, vous le savez.
Oui, d'accord. Sauf que quand vous proposez dans le budget culturel qu'il y ait des événements de 90 minutes qui vont coûter 5,5 millions d'euros d'argent public, je suis désolé.
Sans concerter les acteurs.
Vous faites allusion à un projet pour le 14 juillet l'été dernier qui ne s'est pas fait.
À la fois de la culture populaire, ni même d'une démocratie, même dans la majorité, parce que le projet a reculé. Parce que ce sont Jean-Michel Bérégovoy, les Verts et des communistes
Marine
qui sont allés freiner des quatre fers. Je veux ajouter là-dessus
si vous êtes fier d'avoir fait obstacle à Thomas Joly, tant mieux pour vous. Moi, je suis très fier de Thomas Joly.
Mais nous aussi, on est fiers de Thomas Joly, monsieur Nicolas Meyer-Rossignol. Mais vous venez nous expliquer.
Alors, l'argent en même temps, on rappelle qu'il y avait un bateau de fer.
Je vous dis juste que je suis très fier de l'argent traversé. On rappelle tout a un prix, que rien n'est gratuit.
Qu'il y avait un projet.
Vous voulez faire vivre les Rouennais sur le moyen de 5 millions d'euros d'argent public en une soirée. Je ne suis pas agressif, monsieur Meyer-Rossignol, je ne sais pas quelle est votre stratégie à 8
mois,
bandes pour essayer de me coller une étiquette.
On va entendre vos propositions.
En train de parler pendant que j'essaie de m'exprimer.
Allez-y, sur le soutien aux artistes auteurs.
Sur le soutien aux artistes auteurs, aujourd'hui, on a des personnes qui créent, qu'il faut soutenir. Raison pour laquelle nous on propose d'expérimenter, parce qu'à l'échelle municipale, ça n'a pas encore été mis en place, une sécurité sociale des artistes auteurs. Nous avons besoin de soutenir les artistes aussi dans la commande publique. Et moi, je regrette aujourd'hui qu'à la ville ou à la métropole, on voit se multiplier des recours à l'intelligence artificielle, alors que nous avons des graphistes, des créateurs rouennais, des créatrices rouennaises, qui ont besoin d'avoir du travail et qu'il ne faut surtout pas. Je ne suis pas anti-IA, parce que l'IA peut avoir un rôle important dans l'avenir, mais par contre, l'IA ne peut pas remplacer aujourd'hui nos créateurs, parce que déjà, elle n'en a pas la capacité, ce qui est beau, ce qui met de l'originalité, ce qui éveille les consciences dans les créations artistiques, eh bien, c'est ce qui est produit par les humains. Et donc, maire de Rouen, je n'aurai aucun recours à l'intelligence artificielle dans toutes les communications publiques. C'est un engagement que je prends et que je tiendrai.
Il y a un projet, et je viens à vous juste après, Marine Caron, que vous partagez d'ailleurs, je crois, avec M. Meyer-Rossignol, la création d'une galerie d'art pour les artistes rouennais, dans une galerie d'art municipale.
C'est une vraie demande, en fait, à la fois des ateliers, à la fois des galeries. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Les artistes auteurs, aujourd'hui, sont très précaires, juste en termes de niveau de vie. Il y a 2/3, par exemple, des auteurs de BD qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, plein de créateurs qui n'ont pas la possibilité de payer un loyer, par exemple, pour pouvoir exposer leur travail, et pourquoi pas le vendre, et pourquoi pas en vivre, et qui, du coup, vous savez, on a aujourd'hui des plasticiens ou des personnes qui font des tableaux et qui sont obligés d'avoir des boulots alimentaires dans des grandes surfaces, dans des fast-foods, pour pouvoir continuer à créer des œuvres, eh bien, c'est le rôle de la force publique de leur permettre d'avoir des lieux dans lesquels ils peuvent exposer, vendre, et puis aussi faire connaître leur talent aux Rouennais et aux Rouennaises. Ça permettra aussi aux Rouennais et aux Rouennaises d'avoir un nouveau lieu de balade, de visite. Et pour celles et ceux qui en auront les moyens,
même de pouvoir acheter des œuvres pour faire vivre nos artistes rouennais.
Sur ce sujet, je signale qu'on est en train de racheter les bâtiments de VNF, Voies Navigables de France, qui sont en à bord de Seine sur l'île Lacroix, qui pourraient faire partie avec le Chez Avin et d'autres de lieux d'accueil, effectivement.
Mais avant d'avoir des lieux d'accueil,
sur vos propositions sur la culture.
Pour y répondre, avant d'avoir des lieux d'accueil, il faut peut-être déjà pas abandonner les acteurs du territoire. L'un des plus anciens festivals d'art à Rouen, qui est le Salon des artistes indépendants normands, qui avait 80 ans.
Qui se tenait à la Halle aux Toiles.
Bien sûr, qui se tenait à la Halle aux Toiles tous les ans. Il a dû mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y avait plus assez de soutien de la ville de Rouen, parce qu'il y avait des impératifs sécuritaires, certes, mais la ville, elle n'a pas fait le choix d'apporter une subvention de 6 000 euros qui aurait pu permettre au festival de continuer d'exister. La culture, c'est au quotidien. C'est quelque chose qui nous permet de nous rencontrer, qui nous permet de dialoguer. C'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qu'on doit avoir en partage. Et le partage, c'est le dialogue, c'est le respect. On a un petit peu évoqué le sujet du 14 juillet qui ne s'est pas fait, certes. Et oui, je suis contente parce qu'il ne s'est pas fait parce que la méthode n'était pas la bonne. On n'impose pas aux
peut-être
acteurs du territoire.
Pour que tout le monde comprenne bien, il y avait un projet pour le 14 juillet mis en scène par Thomas Joly qui coûtait de l'argent, qui aurait nécessité 5 millions d'euros d'argent public.
11 millions d'euros au total. Dont 5 millions d'euros d'argent public.
Je rappelle, s'est pas fait, donc de l'argent
je rappelle
pas
quand même que quelques mois avant, M. Maillet-Rossignol accrochait son écharpe tricolore sur les grilles de la préfecture pour dire qu'il n'avait pas assez d'argent pour les sujets du quotidien, pour nos écoles, pour l'entretien de nos rues. Et là, tout d'un coup, on trouve 5 millions d'euros d'argent public, miracle. Bien sûr qu'on a envie d'avoir des projets qui font rayonner le territoire. Bien entendu que c'est important, bien entendu qu'on doit en être fier. Nous, on porte un projet, notamment le Festival d'Arts Monumentaux, c'est un exemple pour faire parler le patrimoine, la culture vivante, la création artistique, ça c'est essentiel, mais il faut le faire en concertation avec tous les acteurs. Aujourd'hui, le dialogue, il n'existe pas, parce que dans les acteurs de la culture, il y a les acteurs publics, les acteurs associatifs, les acteurs privés. Il faut remettre du dialogue entre toutes ces personnes-là, il faut soutenir la création artistique, bien entendu, mais il faut être au rendez-vous collectif et pas au rendez-vous de quelques-uns.
En un mot, vous disiez vouloir créer les rendez-vous annuels de la culture,
c'est
une sorte d'assise de la culture.
C'est exactement ça, c'est remettre de l'aide dialogue sur un temps fort annuel et bien entendu au quotidien dans les relations acteurs culturels, mais déjà changer la méthode parce qu'aujourd'hui elle ne fonctionne pas.
Merci d'être à l'écoute de ce débat sur Tendance Ouest qui va déjà toucher à sa fin. Je vous voyais tous demander la parole. Je sais que vous aviez encore plein de choses à dire sur ces sujets, évidemment, du sport et de la culture. Et vous aurez l'occasion de le faire pendant cette campagne d'entre-deux-tours. Vous disposez, en tout cas, désormais d'une carte blanche thématique libre pendant une minute. On va commencer dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc, Maxime Da Silva pour La France Insoumise, liste Faire Mieux pour Rouen. Vous avez une minute de carte blanche.
Merci beaucoup. Eh bien, pour dire aux électeurs et aux électrices qu'il faut absolument se mobiliser dimanche pour envoyer un maximum d'élus France Insoumise Faire Mieux pour Rouen au conseil municipal et au conseil métropolitain. Je disais tout à l'heure, si vous avez voté pour nous dimanche, il faut le refaire. Si vous n'avez pas voté, allez voter. Et si vous avez voté pour une liste qui est disqualifiée au second tour, votez pour le seul bulletin de vote résolument anti-Macron et anti-raciste. Je profite de ce micro et de cette carte blanche pour inviter l'ensemble des Rouennais et des Rouennaises au grand meeting Faire Mieux pour Rouen demain soir à 19h30, qui sera un meeting à la fois antiraciste et aussi un meeting pour dire qu'une autre Rouen est possible. J'annonce qu'il y aura la députée de Seine-Maritime Alma Dufour et le rappeur Medine. Le concert est gratuit, venez nombreux et nombreuses.
Merci beaucoup Maxime Da Silva, vous étiez même un peu plus court que votre minute, vous avez 10 secondes encore si vous voulez.
10 secondes pour dire que sur ma frustration sur la culture, c'est que il y a Chibi Rouen, festival de pop culturel, qui a été aussi fermé par la métropole de Rouen, et nous allons mener la bataille pour le rouvrir. Donc si vous aimiez Chibi Rouen, votez France Insoumise.
Merci Marine Caron, liste Réussir Rouen pour la droite et le centre. Une minute pour convaincre les électeurs, c'est à vous.
Moi je voudrais simplement faire un constat. Aujourd'hui, 50% des électeurs à Rouen ne se sont pas déplacés. S'ils ne se sont pas déplacés, c'est parce qu'il y a une raison et c'est qu'il y a une perte de confiance de manière générale dans nos élus. Si on perd confiance dans la politique, dans les élus, c'est aussi parce que trop souvent, on politise et on médiatise à l'échelle nationale certains débats qui n'auront pas lieu d'être. Aujourd'hui, retrouver la confiance, c'est parler vrai, c'est parler du quotidien, c'est parler aux habitants. C'est pas parler pour attiser la peur, pour attiser la montée des extrêmes, comme c'est malheureusement trop fait souvent. Parce que au final, quand on veut convaincre les gens, il faut parler avec le cœur. Et quand on parle avec le cœur, on parle de valeurs. Les valeurs qui sont les nôtres, c'est celles que l'on porte, c'est des valeurs républicaines, c'est des valeurs de tolérance, c'est des valeurs de fraternité, c'est des valeurs d'humanisme, parce que ça a toujours été fondamentalement les valeurs qui sont les miennes. Et ça, c'est important. Demain, j'appelle tous les Rouennaises et les Rouennais qui veulent du changement à voter utile, à un vote de responsabilité, un vote de conviction.
Merci Marine Caron, Nicolas Meyer-Rossignol pour la liste Fier de Rouen d'un rassemblement de la gauche. Vous avez à votre tour une minute.
Merci, merci de votre invitation. Merci pour ces débats au premier tour, au second tour. Merci à Tendance Ouest. Vous nous avez placés en tête, largement sur le premier tour. Mais en réalité, le résultat qui compte, c'est le second tour. C'est comme un match de foot, hein, la mi-temps, oui, d'accord, mais c'est le résultat final qui compte. Et aujourd'hui, nous sommes finalement les seuls en capacité de gagner à gauche. Donc la question qu'on doit se poser pour dimanche prochain, c'est est-ce qu'on veut ne pas aller voter ? Et donc, puisque c'est une répartition à la proportionnelle, si on ne va pas voter, ça veut dire mécaniquement faire augmenter le score des adversaires et notamment de l'extrême droite. Vous avez envie de faire monter le score de l'extrême droite ? Ou bien est-ce qu'on veut faire gagner un rassemblement humaniste, un rassemblement, bien sûr, qui a encore des choses à améliorer, mais qui a fait progresser Rouen et notre agglomération ? Eh bien, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous toutes et tous. Allez voter nombreux et soyons positifs et fiers de Rouen dimanche 22 mars.
Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat avant le second tour des municipales à Rouen. Je rappelle que Grégoire Houdan pour la liste Rouen Conquérante, membre du Rassemblement National avec le soutien de l'UDR, était normalement annoncé pour ce débat. Il s'est décommandé en dernière minute à la suite d'une urgence familiale. Vous retrouvez en partie ses propositions sur tendanceouest.com. L'ensemble des débats organisés d'ailleurs par Tendance Ouest sont à retrouver sur notre plateforme podcast.tendanceouest.com. Ce sera le cas de celui-là dans l'après-midi si vous l'avez pris en cours de route, mais aussi pour Le Havre, pour Caen, pour Cherbourg, pour Saint-Lô et pour Alençon. C'est dimanche le vote donc pour choisir entre tous ces candidats et en tout cas dans les villes où il y a un second tour, bien sûr. Rendez-vous dès 19h sur l'antenne de Tendance Ouest pour suivre l'ensemble des résultats, réactions, analyses au plus près de chez vous. Tout de suite, on retrouve le Flash Info de Gilles Antoine et ce sera le retour de la musique sur Tendance Ouest. Passez une excellente journée.